enchaînons tout de suite sur la leçon de tango en profitant du tonus. Et un, et deux, et trois, et quatre, tango!
Buenos días, chers auditeurs, et bienvenidos sur les ondes de Transistor pour ce premier numéro de Buena Onda. Une équipe passionnée du monde hispanique vous amènera deux fois par mois dans les contrées pas si lointaines de l'Amérique latine. Vous y trouverez beaucoup d'actualités, des infos insolites, de l'histoire, de l'art, de la culture, de l'humour, de l'amour, et de quoi retrouver un peu d'Amérique latine à Lyon et ses environs. Aujourd'hui, on vous amène en Argentine, au Venezuela, dans les rues lyonnaises, mais tout de suite, direction Cuba. C'est la détente, chers auditeurs, qui nous amène à parler de Cuba. Non, pas cette supposée langueur dont souffriraient les gens vivant trop au soleil, mais bien la normalisation des relations diplomatiques entre les États-Unis et Cuba, après 53 ans d'embargo. Rapprochement diplomatique historique, titrait Le Monde le 17 décembre 2014, jour où Barack Obama annonçait ce rapprochement. Mais l'affaire semble plus compliquée. Clémence, qu'en est-il ?
Eh bien, on ne peut pas encore parler de la fin de l'embargo. C'est plutôt un réchauffement de leurs relations, ouvrant la possibilité à des négociations quant à la levée de certaines restrictions. Je pense qu'il est nécessaire de revenir sur des dates clés de l'histoire des relations entre les États-Unis et Cuba, ancienne colonie américaine, rappelons-le. Mais les premières mesures de l'embargo datent de 1962, peu après l'entrée de Castro à la Havane en 1959 et la mise en place d'un régime révolutionnaire contre la dictature en place imposée par les États-Unis. Cuba se rapproche alors de l'URSS et du communisme, ce qui, en pleine guerre froide, ne plaît pas du tout, mais alors pas du tout, au gouvernement américain. L'épisode de la baie des cochons en 1961 et celui de la crise des missiles en 1962 mettent le feu aux poudres et signent la reprise militaire du rapport de force entre les deux nations.
Et dire qu'en 62 on a frôlé une guerre atomique. Enfin, on voit bien qu'alors les relations étaient très tendues.
Et pas qu'un peu. Cuba se marginalise d'autant plus en se rapprochant davantage de l'idéologie communiste. Mais la chute du régime communiste en URSS marque le début d'une grave crise économique dont les conséquences sont catastrophiques pour la population, dont les libertés sont par ailleurs totalement réprimées. L'embargo n'aide pas. La fermeture économique est totale. Les entreprises étrangères installées à Cuba doivent payer de fortes amendes, ce qui rend difficile la vie des Cubains. L'embargo pénalise l'ensemble de l'économie. Le monde diplomatique rappelle que les États-Unis interdisent, par exemple, l'importation de machines contenant du nickel cubain, ou du chocolat suisse même, fait à partir de cacao cubain. La loi Helms-Burton, datant de 1996, instiguée par des membres du Parti républicain américain, renforce l'embargo. L'objectif est clair. Il faut étouffer Cuba pour l'obliger à revenir sur le droit chemin de la démocratie.
Et pourtant, on voit bien que Cuba n'a pas renoncé à son régime politique, ni au frère Castro.
Exactement. L'embargo est un échec diplomatique, en fait. Mais depuis l'arrivée de Raúl Castro au pouvoir, en 2006, on perçoit une ouverture de Cuba. Pragmatique, Raúl relâche le dogme du communisme et accélère les réformes, quitte à s'ouvrir aux investissements extérieurs. Mais si l'ouverture économique s'affirme par nécessité, la répression reste forte et les libertés individuelles sont toujours muselées. Point trop n'en faut pour Castro. De plus, cette ouverture relative renforce les inégalités entre les travailleurs qui gagnent des dollars et ceux qui gagnent la monnaie cubaine, le peso cubano, qui vaut bien moins. Bref, du point de vue américain, l'embargo est un échec, car le communisme se maintient et les libertés sont muselées.
Voilà ce qui explique cette volonté de rapprochement diplomatique, finalement. Mais concrètement, comment ça se traduit ?
Eh bien, tout d'abord, ça se traduit par une volonté politique de défendre des valeurs. On peut lire dans le Washington Post qu'Obama déclare que, par une politique d'engagement, les Américains peuvent plus efficacement défendre leurs valeurs et aider les Cubains à s'en sortir.
Mais le rapprochement entre Castro et Obama représente aussi des intérêts économiques, on est d'accord ?
On l'aura compris. Pour les États-Unis, c'est la possibilité d'investir à Cuba. C'est l'occasion pour des compagnies américaines d'ouvrir des comptes dans des banques cubaines. Mieux encore, pour le business, les entreprises de télécommunications pourront vendre leurs équipements et construire des infrastructures. Cela va également doper le tourisme à Cuba. Et les exportations seront facilitées. Car pour Cuba, ce rapprochement donne la possibilité de s'ouvrir à l'ensemble de l'Amérique latine et de garder son système politique et économique tout en redressant son économie. De part et d'autre, l'opinion publique semble plutôt favorable. Si on lit les journaux locaux, à savoir le seul journal local, La Granma, qui met en avant le fait qu'il s'agit avant tout, je cite, d'un accord de coopération bilatérale qui veille au respect réciproque du système politique et économique de chacun des pays. Cependant, restons vigilants. L'optimisme un peu outrancier de la part du journal officiel du régime communiste cubain montre des faiblesses. Avec un regard plus critique, la journaliste cubaine Yaoni Sanchez, qui fait partie de l'opposition souvent censurée, décrit sur son blog 14 y medio l'aveuglement du régime de Castro qui croit traiter d'égal à égal avec les États-Unis. Mais ces négociations en cours mettent surtout en avant les fractures de la société cubaine.
Et pour l'info insolite du jour, voilà ce qu'on vous a dégoté.
660 euros. Ça pourrait résumer cette info insolite du jour. Et oui, est-ce que vous saviez qu'au Venezuela, c'est le prix à payer pour acheter une boîte de préservatifs ?
Ça fait cher les relations sexuelles.
Et ceci était une info BFM TV.
Le 18 janvier 2015, à Buenos Aires, le procureur Alberto Nisman est retrouvé mort dans sa baignoire. Vous trouvez ce fait anecdotique ? Eh bien, ça ne l'est pas. Après tout, Damien Pachter, le premier journaliste à avoir fait état de la mort de Nisman, a préféré partir en Israël plutôt que rester en Argentine, car, dit-il, il craignait pour sa vie. Je crois, Léa, que nous aurions bien besoin d'un petit récapitulatif des événements qui, aujourd'hui, secouent l'Argentine.
Depuis le 18 janvier, la presse argentine, mais aussi internationale, parle de l'affaire Nisman. Le procureur Nisman travaillait sur l'affaire de l'attentat antisémite du 18 juillet 1994 qui avait visé l'Association Mutuelle Israélite Argentine, ou AMIA, et tué 84 personnes. Cette affaire, jamais résolue, paraissait suspecte à Nisman. Un article du Monde, datant du 28 janvier 2015, expose les faits avec précision. Le jour de sa mort, le procureur Nisman devait témoigner devant les parlementaires réunis à huis clos sur les obstructions supposées de la présidente, Madame Kirchner, à l'enquête sur l'attentat antisémite. Il est attribué par la justice argentine au Hezbollah libanais et à la République islamique d'Iran. Madame Kirchner est soupçonnée d'avoir voulu couvrir l'Iran pour décrocher des contrats commerciaux. Nisman est retrouvé mort 3 jours après avoir, publiquement, porté des accusations contre la présidente. Le doute s'installe. Et ce doute s'est installé dans toute l'Argentine. Clarín, un des principaux journaux opposés au régime de Kirchner, en fait sa une pratiquement tous les jours. Et le journal conservateur La Nación également. C'est une affaire largement médiatisée, et malgré cette médiatisation, on manque de preuves.
Comment ça, on manque de preuves ?
Bah, on ne sait toujours pas si cet homme a été assassiné ou s'est suicidé. D'ailleurs, Kirchner a vite retourné sa veste sur les réseaux sociaux. Après s'être désolée du « suicide » du procureur, elle s'est ravisée pour parler d'un assassinat.
Le gouvernement doit être totalement mal à l'aise. D'autant plus que ce n'est pas la première fois qu'il est mis en cause dans des scandales d'ordre politique ou économique.
En fait, cette affaire révèle à quel point ce gouvernement est fragile. D'ailleurs, elle intervient avant l'élection présidentielle d'octobre. Même si Kirchner ne peut pas se représenter pour un troisième mandat, c'est tout le parti qui se dit péroniste qui en pâtit. Méfiance. Ne tirons pas de conclusions hâtives, nous rappelle pourtant Santiago O'Donnell dans un article critique de sa revista Anfibia. Avec justesse, l'auteur parle, je cite, « d'une dispute politique, médiatique et légale entre le gouvernement et l'opposition, exacerbée par l'année électorale ».
Mais où en est l'enquête ?
L'enquête piétine, malheureusement. Mais il est intéressant de relever le désir de la population à voir cette affaire éclaircie. Des milliers de manifestants se sont rassemblés à Buenos Aires, réclamant justice. D'ailleurs, comme le souligne O'Donnell, un groupe de juristes et d'intellectuels ont proposé la création d'une commission nationale pour élucider l'affaire de l'attentat contre l'AMIA. La volonté de créer ce genre de commission montre bien qu'on ne fait pas confiance au système judiciaire actuel.
Alors, tous pourris ?
Non, enfin, c'est plus compliqué que ça. Nisman lui-même a été idéalisé par la presse à cause de la grande médiatisation de l'affaire. De fait, Santiago O'Donnell relève que, je cite, « les Wikileaks ont montré que Nisman n'a pas mené à bien une enquête indépendante » mais qu'il s'est engagé auprès d'une superpuissance étrangère à ne suivre que la piste iranienne. Si tel est le cas, il ne fait pas vraiment preuve d'objectivité dans son rôle de procureur et montre que ses conclusions sont peut-être biaisées. Et le fait que l'on n'ait trouvé aucune preuve de ce qu'il avance le confirme. C'est pourquoi Santiago O'Donnell adopte un ton critique et cherche à prendre du recul. Thank you.
Et pour la chronique culture, on accueille Camilla.
Bonjour à tous. Alors le mois de mars sera riche en événements culturels, puisque depuis le 11 mars jusqu'au 25 est organisé un festival de cinéma ibérique et latino-américain qui propose à la fois des films inédits montrés en France pour la première fois, mais aussi des avant-premières et quelques reprises de vieux films. L'objectif reste cependant de faire découvrir des cinéastes en devenir et d'avant-garde du monde hispanique.
Ah, c'est super. Et donc il y aura aussi des films de tous les pays latinos?
Oui. Alors, on trouve entre autres 7 films argentins, 6 espagnols, 5 brésiliens, mais le reste des pays d'Amérique latine sera aussi présent, avec des longs métrages mexicains, chiliens, péruviens et plein d'autres encore. En fait, la thématique de cette 31e édition du festival porte sur le regard de l'enfant sur la vie et leur perception du monde des grands, avec ce que ça peut comporter de désillusions, découvertes, premiers amours, éveil des passions, découverte de soi.
Et donc ce festival est partout dans Lyon ou juste dans quelques cinémas spécifiques? Et où est-ce qu'on peut trouver des renseignements?
Alors non, tu fais bien de demander. Le festival aura lieu à Villeurbanne, dans le cinéma Le Zola, qui organise pour cette occasion les expositions, débats, concerts et projections. De quoi faire des découvertes intéressantes. On peut donc trouver tout ça sur le site www.lesreflets-cinema.com. Mais autrement, il y a des flyers dans les universités et j'espère aussi bientôt dans le hall de Descartes. Ne ratez donc pas cette occasion de découvrir les cinéastes du monde hispanique, surtout lors de la fiesta de clôture le 25 mars au Transborder, qui promet d'être mémorable avec une initiation à la danse, Baila Conmigo, des concerts de salsa, de bachata, des DJ.
Très bien, merci pour ces renseignements. Les cinéphiles auront de quoi se réjouir. C'est tout pour ce qui concerne les événements culturels du mois de mars?
Loin de là. Pour les adeptes de théâtre, du 15 au 30 mai, le NTH8, dans le 8e arrondissement de Lyon, présente une programmation intitulée « Monstres d'or et d'argent » qui réunit des extraits d'œuvres espagnoles et latino-américaines du siècle d'or jusqu'à aujourd'hui.
Ah ouais, c'est varié tout ça. Saurais-tu par hasard quels dramaturges ou auteurs passeront?
Oui. Alors, je te cite tout ça un peu dans le désordre, mais on trouve entre autres « La vie est un songe » de Calderón, mais aussi « Calderón » fait par Pasolini. On trouve pas mal d'œuvres de Federico García Lorca et une création d'Ernesto Anaya, chilien-mexicain, qui réinterprète le célèbre tableau espagnol de Velázquez, Les Ménines. Il y aura plusieurs séances pour chaque spectacle, mais vous pouvez aussi faire les deux intégrales de la programmation, Monstre 1 et Monstre 2, qui passent le dimanche 15 mars de midi à minuit, ou alors le samedi 4 avril.
Ah ouais, deux intégrales, bah, il faut être en forme, c'est un vrai marathon de théâtre, tenir 12 heures d'affilée.
Et oui.
L'expression du jour est « Buena onda ».
Ah ! Quand même, c'est le nom de notre émission. Vous vous êtes tous demandé ce que ça voulait dire. Littéralement, « bonne onde », c'est une expression répandue en Argentine, au Chili, mais aussi au Mexique, et qui signifie « cool, sympathique, relax ». Bref, ça fait plein de bonnes raisons d'écouter « Buena onda ».
Chers auditeurs, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous durant cette émission. Retrouvez tous les articles correspondants au thème d'actualité sur la page Facebook d'Enseguida, l'association Amérique latine de l'UNS de Lyon. Et on vous retrouve dans 2 semaines pour le prochain numéro.